Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 13 août 2025. Il y a bientôt 2 ans, Jérôme Powell avait pivoté. Enfin, pas complètement pivoté, puisqu'il était passé de « je monte les taux pour freiner l'inflation » à « il n'y a plus besoin de monter les taux pour freiner l'inflation, j'ai repris le contrôle ». À l'époque, il n'était pas encore en mode « je baisse les taux à fond ». Et il ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Mais son attitude et l'espoir qu'il nous laissait poindre à l'horizon a suffi à déclencher un bull market de folie basé uniquement sur les perspectives de voir baisser les taux un jour et aussi un peu sur l'intelligence artificielle. Eh bien, figurez-vous que même après 2 ans, rien n'a changé. On monte toujours, pour les mêmes raisons, l'espoir. On peut donc résumer la journée assez simplement. On a attendu de voir les chiffres de l'inflation et comme ils n'ont pas explosé à la hausse, on s'est dit ipso facto que Powell n'avait absolument aucun argument pour ne pas baisser les taux. Donc si on n'a pas de raison de ne pas baisser les taux, on a toutes les raisons du monde pour les baisser. Les chiffres de l'emploi sont immondes, le ralentissement américain est avéré, et si maintenant en plus l'inflation ne monte pas vraiment et que les tarifs douaniers n'ont pas d'impact sur les prix à la consommation, il faudrait être fou pour ne pas le voir. C'est en tous les cas le message que voulait faire passer le marché hier soir. Le CPI de juillet reste dans les clous, il n'y a pas de quoi paniquer. En résumé, l'inflation globale est stable à 2,7% sur une année, comme le mois dernier d'ailleurs, alors que l'on attendait légèrement en hausse à 2,8%, c'est même mieux que les attentes. Sur une base mensuelle, on attendait plus 0,3%, c'est sorti à plus 0,3%. Il n'y a rien à dire. Le core CPI, lui, grimpe à 3,1% contre 2,9% en juin et c'est légèrement au-dessus des attentes qui étaient à 3%. Mais c'est pas grave parce qu'on regarde surtout ce qui nous intéresse. Le core CPI, il a de valeur que quand il montre un truc de positif. Là, on pourrait logiquement se poser des questions, mais on préfère se concentrer sur ce qui va bien. En clair, les chiffres d'hier ne montraient rien d'assez violent pour empêcher la Fed de baisser les taux en septembre, à condition que le marché de l'emploi continue de se tasser. Mais ça, on saura en septembre. Après, il y a les tarifs douaniers qui commencent à se voir dans les chiffres. Mais le passage dont les prix à la consommation reste encore gérable, et personne n'ose aborder le sujet qui laisserait entendre que ça pourrait être plus violent le mois prochain. Parce que tu comprends, il faut pas fâcher les gens et pas les déranger. Alors, bon, je vais quand même le dire parce que ça m'énerve. Il faut quand même noter que même si ces chiffres de l'inflation montrent que tout est sous contrôle, notez quand même que l'inflation des biens est en hausse de 1,2% sur un an. Et en mars, c'était négatif. Il ne faut pas me dire que ça s'est fait par la magie du Saint-Esprit. J'ai arrêté d'aller bouffer des chips en polystyrène expansés depuis trop longtemps. Les voitures d'occasion sont en hausse de 5% sur un an. Les voitures d'occasion prennent de la valeur. On vit dans quel monde, là ? Les services ont pris 0,4% sur un mois et grimpent de 3,6% sur une année. Et l'inflation supercore qui nous avait servi d'argumentaire pour ne pas baisser il y a quelques mois, eh bien elle est de 4% sur un an. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des travailleurs américains ont touché une augmentation de salaire de plus de 5% ces 6 derniers mois parce que les employeurs sont sympas. Oui, c'est de l'ironie. En coulisses, les entreprises US ont payé 28,4 milliards de dollars de droits de douane en juillet, un record, plus 273% sur un an. Pour l'instant, ça se voit pas trop dans les prix finaux, mais ça va venir. Pour le moment, les boîtes encaissent le choc en rognant sur leurs marges, mais ça a une limite. Derrière, ça pourrait vouloir dire moins d'embauches, moins d'investissements ou des hausses de prix plus tard. Non, parce que si vous croyez que dans l'empire du capitalisme, les sociétés vont continuer à faire des cadeaux aux clients au détriment de leurs actionnaires, il faut absolument annuler votre abonnement à Disney+, et arrêter de regarder des dessins animés des années 60 qui finissent systématiquement par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». En attendant, le marché ne regarde que le côté rose. 94% de probabilité d'une baisse des taux en septembre et des chances qui montent aussi pour octobre et décembre. Taux plus bas égale argent moins cher, égale plus facile de financer croissance, embauche et profit. Sur l'ombre au tableau, si les baisses arrivent pile au moment où l'inflation des tarifs commence à se réveiller, ça pourrait remettre en question pas mal de choses. Mais bon, encore une fois, on a enfilé nos lunettes roses sponsorisées par le BLS et on s'est dit que même si l'inflation reste au-dessus des 2% visés par la Fed, elle n'est pas assez haute pour casser l'envie de Powell de couper les taux. Après, il faut faire la différence entre envie de baisser les taux parce que tu y crois vraiment et envie de baisser les taux parce que ton patron de la Maison Blanche te massacre tellement sur X que t'en as marre qu'on te traite comme de la bouse. Et puis, alors, il y a un truc dont personne ne parle, mais qui me saute quand même aux yeux. Je pense que vous voyez où je veux en venir, non ? Bon, alors je me lance. Qui est-ce qui a calculé les chiffres du CPI durant le mois de juillet ? Qui a compilé les données pour en arriver à un résultat satisfaisant pour la Maison Blanche ? Hein ? Qui ? Non, parce que le premier qui a sauté sur son smartphone pour commenter les chiffres, c'est quand même Trump qui a déclaré tout simplement que la Fed devait baisser les taux, classique, sauf qu'il a laissé le suspense sur l'ampleur, non sans oublier de menacer Powell de poursuite en justice s'il ne baisse pas les taux. Bon, il va pas le poursuivre pour ça, mais pour les travaux mis en place à la Fed qui dépasseraient l'enveloppe. Mais vous voyez l'idée de l'ambiance. Et puis, en fin de journée, Scott Bessent est allé sur Fox et a lâché le morceau. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on baisse de 50 basis points en septembre ? Ce qui me ramène quand même à ma question précédente. Qui est-ce qui a calculé les chiffres du CPI durant le mois de juillet ? Eh oui, c'est encore eux. C'est le BLS, le fameux Bureau of Labor Statistics. Vous savez le truc gouvernemental qui avait magouillé les chiffres de l'emploi pour déplaire à Trump parce que la boss du BLS était pro Kamala Harris ? Eh ben, c'est encore eux qui ont publié les chiffres du CPI. Mais bien sûr, cette fois, ils ne sont pas magouillés, les chiffres, puisque ça nous arrange. Parfois, je me dis qu'on nous prend quand même un tout petit peu pour des cons, et je dois dire qu'au-delà de la publication des chiffres de l'inflation d'hier, il est admirable de voir comment nous sommes capables de ne regarder que ce qui nous fait plaisir, pourvu que la bourse monte. Et d'ailleurs, elle monte, la bourse. Wall Street a même sorti le champagne. Le S&P 500 prenait 1,1%, record historique, le 16e de l'année. Le Nasdaq avançait de 1,4%, record historique, 19e de l'année. Quant à notre bon vieux Dow Jones, il ne battait pas de record, mais il avançait quand même de 1,1%. Le reste du monde s'est également montré fort satisfait de cette inflation parfaitement maîtrisée qui nous mène tout droit à la baisse des taux puisque c'est la seule chose qui nous intéresse. Le CAC 40 termine en hausse à cause de la baisse des taux à venir. Le SMI a terminé en hausse à cause de la baisse des taux à venir. Il a carrément oublié que Trump est en train de lui mettre la misère. Et le DAX a fini en baisse de 0,23% parce que SAP s'est fait déglinguer sous prétexte que l'action a cassé la moyenne mobile des 200 jours et que c'était des ventes techniques. Le pétrole est à 63$. Plus personne ne veut le toucher avant le meeting de vendredi entre Laurel et Hardy qui aura lieu en Alaska. Et puis, l'EIA pense que le baril ira sous les 60$ avant la fin de l'année. Bon, les prévisions d'un organisme comme l'EIA, ça a presque autant de valeur que quand la Banque mondiale vient nous donner des price targets sur le S&P 500. Mais peu importe. En ce moment, la réflexion n'a que peu d'importance tant que ça aide l'inflation à ne pas monter et que cela permet à notre stratégie d'investissement basée sur l'espoir de fonctionner. Pendant ce temps, le Nikkei bat des records tellement ça va être facile avec les droits de douane qu'ils ont négociés. Le Hang Seng monte de 1,45% et la Chine est au plus haut depuis bien longtemps. Je crois qu'en ce moment, même le mot euphorie n'a plus de sens. La VIX est sous les 15 et l'indice Greed and Fear est toujours dans le greed. Mais même pas dans l'extrême greed, c'est pas possible. Les mecs qui calculent l'indice de chez CNN ont dû recevoir des consignes. Deux grosses actus techno-bourses en ce milieu de semaine. Tout d'abord, l'affaire Perplexity Chrome. Perplexity, petite pépite de l'intelligence artificielle valorisée à 18 milliards, s'offre un coup de com' XXL, une offre à 34,5 milliards pour acheter Chrome à Google. Le timing est parfaitement calé sur le procès antitrust où le juge Meta pourrait, dans un scénario extrême, forcer Google à vendre son navigateur. Mais Alphabet n'a aucune envie de lâcher son bijou, 3,5 milliards d'utilisateurs, plus de 60% du marché, et un outil clé pour son business, et qui est accessoirement valorisé par pas mal de monde, quelque part autour des 100 milliards. Perplexity, elle, promet de garder Google en moteur par défaut et de continuer à bichonner Chromium. Reste que la probabilité d'un vrai deal est faible, mais avouez quand même que de voir Google se faire dépouiller de Chrome, ça serait un sacré spectacle. Ou pas. Deuxième épisode, CoreWeave, star montante du cloud IA qui flambe sur la demande mais dérape sur les pertes. Deuxième trimestre, 1,2 milliard de revenus, plus 200% sur un an, pour un carnet de commandes de 30 milliards, mais aussi 291 millions de pertes, bien au-dessus des attentes, à cause des investissements massifs pour suivre le rythme. Résultat, moins 10% après after close, malgré des prévisions solides pour le trimestre à venir et une guidance annuelle relevé. Les patrons rassurent, mais admettent que l'approvisionnement en GPU et la mise en service des data centers, c'est un parcours d'obstacles. Et pour corser le tout, le lock-up des actionnaires expire ce jeudi. Si ça vend en masse, la volatilité promet d'être au rendez-vous. Moralité, Perplexity rêve de piquer les bijoux de la couronne de Google. CoreWeave imprime des ventes comme Nvidia, imprime des billets. Mais les deux savent que sur les marchés, le rêve et la réalité se croisent rarement, très longtemps. Nous sommes donc à de nouveau plus haut historique sur le S&P 500 et le Nasdaq et le SOX devraient suivre dans quelques jours. Tout ça pour un CPI de juillet un poil plus cool que prévu. Et tout le monde se met à rêver d'une baisse des taux par la Fed en septembre pour amortir les dégâts des tarifs douaniers de Trump. Sauf que derrière le feu d'artifice boursier, il y a aussi des bombes à retardement. Les prix des gros travaux, par exemple refaire un toit, rénover une cuisine, n'ont pas encore vraiment été intégrés dans les surcoûts des tarifs. Les gros entrepreneurs les absorbent pour l'instant en rognant sur leurs marges, mais selon certains experts, les consommateurs ne vont pas tarder à sentir passer la note. On parle de 2026 et là, ça risque de raconter une autre histoire. Le problème, c'est que les boîtes tiennent grâce à leur stock pré-tarif et à des marges plus fines, voire extra-light dans certains cas. Les bas revenus, eux, sont déjà à sec côté consommation, alors que les hauts revenus continuent de dépenser comme si de rien n'était. Mais quand les tampons anti-tarifs vont sauter, l'inflation pourrait remonter vers 3,2% d'ici la fin de l'année. En clair, aujourd'hui, on paye peut-être un dollar de plus pour des bananes. Demain, ce sera 500 balles de plus pour un frigo ou une bagnole. Et quand ça arrivera, le consommateur moyen pourrait enfin sentir la patate chaude des tarifs dans son portefeuille. Moralité, la bourse fête la baisse des taux avant même qu'elle n'ait eu lieu. Mais la vraie facture des tarifs douaniers, elle, n'est même pas encore arrivée. Et quand elle tombera, ça risque de casser un peu l'ambiance. Et j'ai tout ça sans aucune intention de gâcher la fête de la fin de l'été. C'est juste des fêtes qui ont tendance à être un peu trop vite effacées, avec un joli narratif bien poli et des lunettes roses. En résumé, l'inflation qui monte, des marchés qui montent et Trump qui veut que Powell appuie sur le bouton Easy Money en plein milieu de la guerre commerciale. On dirait un film qu'on a déjà vu et dont les scénaristes n'arrivent pas à se décider pour écrire l'épisode suivant. On tourne en rond avec les mêmes histoires et on a une capacité à ne regarder que le bout de nos chaussures. Ça me dépasse. Pour le marché, la boussole est claire. Tout va jouer sur les prochains chiffres de l'emploi et du CPI d'août, juste avant la réunion du 16-17 septembre. De quoi attendre encore un peu? C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude d'attendre. Côté chiffres du trimestre, on aura trois chiffres qui valent le coup. Aeon en Allemagne, Tencent en Chine et Cisco aux USA. Pour ce qui est de la macro, nous aurons le CPI en Allemagne et en Espagne, les inventaires pétroliers et Bostich de la Fed qui parlera. Mais pour être franc, la prochaine étape, ce sera surtout le PPI de demain, histoire de voir si le tsunami des tarifs douaniers apparaît quand même au loin dans les chiffres des prix à la production. Pour le moment, les futurs sont inchangés. Il me reste à remettre mes lunettes roses et à vous donner rendez-vous vendredi pour parler PPI, justement. Passez une excellente journée et profitez bien de la chaleur écrasante du moment, puisque c'est le sujet principal de la plupart des médias, même avant l'inflation. Parce que oui, aussi fou que ça puisse paraître, en été, il fait chaud et en hiver, des fois, il fait froid et il y a même de la neige de temps en temps. À vendredi et très bonne journée.